Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, ton Père suprême, le Seigneur même, il est amour. Je retiens toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. Qui vient tout naturellement à l'esprit lorsque l'on réalise que la discrimination raciale est tout à fait injuste. Que puis-je faire, moi, pour ouvrir les yeux à mon prochain? Le problème est évidemment très vaste, très complexe. Mais il ne faut pas mésestimer la valeur et l'efficacité d'une action individuelle et contribuant pierre après pierre à la construction d'une société dans laquelle chacun aurait les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelle que soit sa race et la couleur de sa peau. Cinq pas aussi importants qu'essentiels peuvent facilement être faits. Premièrement, nous pouvons regarder au fond de nous-mêmes afin d'examiner notre comportement et développer le désir de changer nos idées et notre attitude en fonction de ce que notre sincérité nous a permis de découvrir. Pour y arriver, il est nécessaire d'être absolument objectif et hélas, peu de gens le sont. Deuxièmement, nous pouvons assez facilement cesser de coller une étiquette sur le dos de nos semblables. Il est faux de dire que les Noirs sont bêtes, que les Arabes sont faux, que les Jaunes sont cruels, que les Juifs sont roublards. Ça peut être vrai pour certains, mais pas pour d'autres. Bannissons de notre vocabulaire des expressions telles que « être saoul comme un Polonais », »,« chercher une querelle d'Allemand », »,« être avare comme un Juif », »,« flegmatique comme un Anglais » ou encore « paresseux comme un Mexicain ». On généralise trop facilement, on catalogue d'office, et tout cela crée inconsciemment dans notre esprit des idées préconçues, néfastes, et qui nous sont préjudiciables, ainsi d'ailleurs qu'aux différentes races et nations incriminées. On va même jusqu'à adapter ces actions à ces généralités bêtes, méchantes et gratuites. Il n'en faut pas plus pour créer un climat de méfiance et de mésentente. Troisièmement, nous pouvons développer et cultiver l'amitié de personnes appartenant à une autre race ou à un autre pays. C'est en les connaissant mieux que nous nous arrêterons de les critiquer, voire de les condamner d'office. La courtoisie et la gentillesse envers tous effacent le chauvinisme et le racisme. Ayons le courage de faire ce que les autres ne font pas à cause précisément d'une discrimination aveugle. Charles Colton disait « Le plus grand ami de la vérité est le temps. Son plus grand ennemi et le préjugé. » Le secrétaire d'État américain Foster Dulles, s'adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies, s'exclama un jour et dit « Le Christ voulait que les hommes voient et qu'ils voient loin, qu'ils voient juste. » Cette sorte de vision ne s'acquiert qu'en secouant toute hypocrisie et tout préjugé déformant la vie normale des choses et qui font imaginer ce qui en réalité n'existe pas. Quatrièmement, nous devons toujours juger les hommes individuellement, d'après ce qu'ils sont, et non pas selon la couleur de leur peau ou le pays dans lequel ils vivent. Cinquièmement, nous pouvons finalement prier pour que Dieu nous accorde une meilleure compréhension des choses et des gens, prier pour nous débarrasser des idées toutes faites. La prière a ceci de particulier. Elle peut soit être détruite par nos préjugés, soit c'est elle qui tue. Il nous est facile d'apercevoir la discrimination qui se manifeste dans la vie d'autrui, mais il faut admettre que nous la détectons bien moins aisément dans nos propres actions. Nulle part dans la Bible, le principe de l'acception de certaines personnes ne se trouve plus clairement condamné que dans Jacques, chapitre 2, verset 1 au verset 12. Lisons ensemble cet édifiant passage de la parole de Dieu. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si ton œuvre regarde vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à la place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas à vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, continue Jacques. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens un transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. J'aimerais vous soumettre les trois idées prédominantes de ce passage de la Bible. Le premier, si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Le mot « personne » est utilisé ici au pluriel. Et ça pourrait vouloir attirer l'attention sur les maintes occasions et circonstances dans lesquelles cette faute se révèle. Faire une exception de personne, c'est au sens profond du terme, se laisser guider dans son jugement par des facteurs extérieurs, des considérations personnelles ou des préférences. En bref, c'est juger les hommes en fonction d'éléments étrangers à leur valeur réelle. Jacques condamne donc bien ici toutes les sortes d'exceptions de personnes, bien qu'il utilise un exemple typique, le cas d'un homme riche mis en opposition à un pauvre bourreau. Au grand jour du jugement, nombreux seront ceux qui seront perdus à cause de l'attitude qu'ils avaient observée vis-à-vis des autres. Soyons logiques. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un péché contre l'amour, et par conséquent contre Dieu qui est lui-même amour. Le péché d'acception de personne est connu aussi bien lorsque nous différencions les différentes races ou les différents peuples entre eux, mais quand nous préférons le riche au pauvre. Il est donc essentiel que nous extirpions cette attitude de notre cœur et de notre esprit si nous ne voulons pas être trouvés coupables aux yeux de Dieu. Deuxième point. Quiconque observe toute la loi, disait Jacques il y a un instant, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Cela explicite fort bien le vieux principe qui veut que la solidité d'une chaîne ne vaut que par la résistance de son plus faible maillon. Il ne suffit pas d'observer certains enseignements de Jésus et d'en violer consciemment un ou plusieurs autres. Chaque commandement de Jésus est égal en importance. En violer un seul, fait de nous des hors-la-loi. Fermer les yeux sur cette vérité, c'est nous tromper nous-mêmes. Troisième point. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Peut-on s'attendre à être jugé d'après les critères d'une loi de liberté, tout en refusant soi-même la liberté aux autres? Imaginons-nous être un jour devant le tribunal de Dieu en sachant que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Avons-nous le droit de traiter nos semblables d'une autre manière que Dieu nous traite à nous? Et si les positions respectives étaient brusquement inversées, trouverions-nous l'autre juste et miséricordieux? La Bible dit « Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé ». Il me semble que nous devrions trembler à l'idée d'avoir à nous présenter un jour devant un Dieu qui ne fait aucune exception de personne pour avoir jugé notre prochain et l'avoir rejeté en vertu de la couleur de sa peau ou de sa nationalité, qui n'ont pour seul défaut que d'être différente de la nôtre. Personne n'a vraiment accepté une vérité s'il n'a pas dû lutter ou même combattre pour elle, même au-dedans de lui-même. La discrimination raciale doit être surmontée. L'intransigeance et l'intolérance auxquelles mènent les préjugés de race et de nation sont à proscrire notre vie si nous voulons nous réclamer du nom de Jésus, du nom de chrétien. Si ce qui vient d'être dit est la vérité, ne croyons pas être agréable à Dieu en enfouissant dans un coin sombre de notre mémoire ou en parlant même de temps en temps à un ami de cette chose. Il faudra que nous mettions cette vérité sur un piédestal pour que sa lumière soit visible de tous. Jésus le dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Utilisez votre influence où vous pouvez, quand vous en avez l'occasion, et veillez, dans la mesure de vos possibilités, à ce que chaque être humain soit traité de la manière dont Dieu veut qu'on le traite. Il n'est pas facile de surmonter les préjugés qui sont ancrés dans notre esprit parfois depuis notre plus tendre enfance. Mais dites-vous bien, lors de vos hésitations, quand la faiblesse vous prend, que Dieu est prêt à vous fortifier si vous le lui demandez. Laissez la vérité dominer entièrement votre existence. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le Saint-Amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours. Une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement, en tant qu'âme, nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, 9h.